Fabien Sublet, docteur en pharmacie.
Chères auditrices et chers auditeurs de la première, bonjour. Soyez toujours les bienvenus dans votre émission de santé du samedi matin. Vous autres savez, consacrée ce matin à la sexothérapie. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Morgane Siupa. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue et vous allez être avec nous pendant toute cette émission pour nous parler de ce sujet, la sexothérapie. Alors, bien sûr, vos réactions en direct sur le Facebook Fabien.Sublet pour vos témoignages, vos questions ou vos remarques sur cette thérapie.
Un canal de salsemo, como mosé, la Roma honey.
Vous êtes toujours dans votre émission Faux Os de Savé, ce matin consacrée à la sexothérapie. Nous allons parler des problèmes de couple, les problèmes relationnels, infidélité, jalousie, les liens toxiques, on en parlera. Alors on va voir pourquoi ces problèmes, comment ces problèmes peuvent être contrôlés, peuvent être améliorés, améliorer ces relations dans le couple grâce à la fréquentation d'une psychologue, car vous êtes avant tout psychologue, Morgane Siupa.
Oui, tout à fait. Alors, je suis psychologue, j'ai été diplômée d'une université parisienne. Et au fil de mes expériences professionnelles, particulièrement en hôpital, j'ai eu l'occasion d'observer que le corps pouvait être laissé de côté, qu'on avait tendance à uniquement se satisfaire de prendre connaissance de l'ambiance, de l'optique dans laquelle s'inscrivait chacun des patients, sans se rendre compte de comment ils se sentaient dans leur corps, comment ça se passait pour eux. Et ça leur manquait énormément. Le fait qu'on leur demande est-ce que tout va bien, sans leur demander est-ce que vous vous sentez bien, comment vous vous sentez dans votre corps, est-ce que vous avez des douleurs aujourd'hui, mais uniquement est-ce que vous êtes satisfait des soins, ça n'était pas suffisant. Donc finalement j'ai commencé à regarder de plus près ce qui se passait en ce qui concernait le corps, ce qui m'a amené à me former d'une part sur tout ce qui concerne la relaxation, la pleine conscience et les soins énergétiques, mais également tout ce qui concerne la sexualité qui fait tout à fait partie de notre vie tout comme le reste.
Alors cette sexualité, on va en parler aujourd'hui puisqu'on va parler de sexothérapie. Alors sexualité, on en parle, souvent elle est taboue, souvent on n'ose pas aborder certains problèmes. Alors c'est l'occasion pendant cette émission de poser vos questions sur le Facebook, bien sûr. Cette sexualité, dans le couple, quelquefois, c'est un frein à une relation épanouie parce que, justement, il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas. Alors comment ça se passe déjà? Les personnes qui viennent vous voir... viennent vous voir comment et pour quelles raisons?
Alors, la plupart du temps, ce qui amène à ce qu'on vienne consulter un sexologue, c'est le fait qu'on va avoir une difficulté sur un certain plan. Ça peut être dans la communication autour de la sexualité, tout comme ça peut être des troubles sexuels du type éjaculation précoce ou dysfonction érectile, c'est ce qu'on appelle aussi la perte de l'érection. Ça peut être également des douleurs ou une baisse de libido. Toutes ces raisons-là, du coup, amènent la plupart du temps à ce qu'on se questionne, puisque cela amène des difficultés relationnelles derrière dans son couple. L'un des deux va être en demande et l'autre va être dans l'inconfort. Et donc, ces circonstances-là qu'on vient consulter un sexologue.
On vient consulter un sexologue, donc c'est une consultation qui se passe comment ?
Alors, en ce qui concerne la consultation, le sexologue est dans l'échange. Donc, il ne regarde pas, il ne vous touche pas, il ne vous juge pas. Il est là pour vous accompagner en fonction de ce que vous allez souhaiter révéler de vous. À partir de ces différentes informations, on va pouvoir ensuite avancer ensemble pour pouvoir découvrir quelles sont les causes de ces différents troubles. Est-ce qu'on est sur des causes purement physiques et où des fois il y a besoin d'aller faire des examens corporels, de revoir certaines habitudes de vie. Par exemple, on sait que l'alcool peut avoir un impact sur la fonction érectile et donc peut amener à ce qu'il y ait plus de facilité à perdre son érection.
Alcool et tabac, hein.
Tout à fait, le tabac également. Et où effectivement, des fois, c'est vraiment plutôt un rééquilibrage sur le plan corporel. Et d'autres fois, on est plus dans une thématique psychologique du type jalousie, manque de confiance en soi, infidélité et donc difficulté à réinvestir la sexualité par la suite, etc. qui va du coup amener à ce que les réactions sexuelles ne sont plus les mêmes.
Les réactions sexuelles qui ne sont plus les mêmes, une insatisfaction de la personne, mais également du couple global, qui peuvent conduire à consulter. Alors, comment ça se passe? Est-ce que les personnes viennent plutôt en couple, viennent seules? Comment se passe cette première consultation?
Alors, la première consultation, l'idée est d'être à son aise. Donc, s'il y a besoin de venir en couple, on vient en couple. S'il y a besoin de venir seul, on vient seul. L'idée est vraiment de pouvoir sentir qu'on va avancer et qu'on va avancer ensemble. Donc pour avancer ensemble, il faut être à l'aise. Il faut pouvoir se sentir libre de réagir tel qu'on a besoin de réagir. Donc s'il y a besoin de venir au départ en couple et puis de demander au compagnon de sortir à un moment donné, c'est tout à fait possible. L'inverse également, c'est vraiment très adaptable.
C'est adaptable en fonction de chacun. En tous les cas, donc la consultation peut être conseillée. Alors on consulte à partir de quand ? Ça, c'est une question qu'on a sur le Facebook. Est-ce que, par exemple, pour les hommes, après une première panne d'érection, est-ce qu'il faut consulter tout de suite ou alors, bon, on peut se permettre d'attendre un peu ?
Alors, on peut se permettre d'attendre un peu. C'est-à-dire que ça arrive à tout le monde de pas pouvoir être dans ce qu'il souhaite du premier coup. Des fois, ça peut simplement être un coup de fatigue ou une période de stress. On arrive à comprendre les raisons. Néanmoins, lorsqu'on sent que le problème commence à persister dans le sens où il commence à nous déranger, à nous gêner et à amener de la souffrance, là, il est important de commencer à réfléchir, à consulter.
Quand ça amène de la souffrance, quand ça dérange, quand ça empêche de dormir, quand ça travaille, quand les petites choses tournent dans la tête, là, c'est quand même nécessaire de consulter pour voir s'il y a quelque chose à faire. Vous écartez bien sûr les problèmes donc organiques, on va dire, s'il n'y a pas un problème vraiment au niveau de l'appareil du fonctionnement. Puis après, donc vous allez arriver donc à la conclusion que non. Et dans ce cas-là, on peut voir ce sexologue qui va donc prendre en charge cette problématique-là.
Exactement.
Alors la personne vient vous voir, elle a cette première consultation. Comment ça se passe concrètement au niveau, par exemple, de la prise en charge ? Est-ce que c'est pris en charge par les organismes de sécurité sociale ?
Alors non, ça n'est pas pris en charge par les organismes de sécurité sociale. Néanmoins, si le professionnel que vous consultez a différents statuts, vous pouvez avoir certaines prises en charge. Par exemple, un psychologue qui est également psychothérapeute. Alors le psychologue, c'est celui qui comprend et le psychothérapeute, c'est celui qui soigne. Les psychologues sont formés à une psychothérapie, donc ils ont habituellement les deux statuts. Les psychologues et les psychothérapeutes peuvent être pris en charge par certaines mutuelles. Et si vous consultez un psychiatre qui fait de la sexothérapie, eh bien lui également est pris en charge, mais lui directement par la sécurité sociale.
Directement par la sécurité sociale. Donc il y a possibilité dans certains cas d'une prise en charge, et ça c'est pour la question sur le Facebook de Claude. Concernant cette thérapie, alors qu'est-ce que vous allez utiliser comme moyen pour arriver à vos fins, c'est-à-dire à ce que la personne, que ce soit un homme, parce que là on a parlé de l'homme, mais aussi la femme, peut consulter. Du reste, y a-t-il plus d'hommes, de femmes qui consultent ou plutôt des couples ?
Alors, je dirais qu'en première séance, souvent je reçois le couple. Et puis par la suite, ce sont souvent soit des hommes, soit des femmes. Il m'arrive également de recevoir le couple et puis ensuite l'homme, ensuite la femme pour justement créer un rééquilibrage. Et où dans cet espace privé où on reçoit que l'homme ou que la femme, cet espace est soumis au secret professionnel. Donc ce qui est dit en individuel reste en individuel. Donc ça permet à chacun de pouvoir dire des choses qu'il n'oserait peut-être pas devant son compagnon ou devant sa compagne, pour pouvoir justement permettre d'avancer dans la thérapie autrement et pour pouvoir justement régler ces différentes difficultés qui se présentent actuellement.
Alors dans les techniques que vous utilisez, on utilise quoi comme technique ? Parce qu'il y a des techniques, forcément. Alors qu'est-ce qu'on utilise comme technique quand un monsieur vient vous voir ou une dame ? Parlons déjà du cas du monsieur qui a des problèmes d'érection. On verra pour le reste parce qu'il y a beaucoup de problèmes. On va parler tout à l'heure de jalousie, de liens toxiques, d'infidélité et autres. Donc comment ça se passe là concrètement ? Qu'est-ce que c'est les techniques qu'on a ?
Alors au niveau des techniques, on va tout d'abord évaluer là où vous en êtes dans votre sexualité actuellement. Donc dans votre sexualité personnelle, si elle existe, donc dans votre sexualité individuelle et dans votre sexualité de couple. On va également retracer un petit peu l'historique pour pouvoir identifier comment ça s'est passé dans d'autres relations. Est-ce que c'était une situation problème qui avait déjà eu lieu auparavant, etc. Donc on va un petit peu retracer votre parcours sexuel jusqu'à pouvoir comprendre ce qui a pris forme. Par ailleurs, on va faire le même parallèle au niveau amoureux, au niveau affectif et au niveau relationnel. Donc, comment ça a commencé au départ, les premières compagnes, les premiers compagnons, comment ça s'est passé, quel était l'investissement affectif, est-ce que vous étiez amoureux ou pas, est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous, l'amour, est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise, et qu'on puisse regarder du coup l'impact que le couple a sur cette sexualité, ou justement si on est plutôt sur le côté des pratiques sexuelles qui auraient été identifiées en premier lieu, eh ben, est-ce qu'il y avait des choses qui n'aidaient pas dans le type de pratique et qui pouvaient justement amener au dysfonctionnement qui est identifié aujourd'hui.
Donc ça, c'est un petit peu donc l'analyse.
Tout à fait.
L'analyse. Alors après, une fois qu'on a l'analyse, qu'on connaît, alors qu'est-ce qu'on a comme technique pour remédier au problème?
Alors, si on est plutôt sur des problématiques d'ordre relationnel, il va falloir justement qu'on travaille sur ce relationnel. Qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui dans le relationnel? Quelles sont les limites qui ont été franchies? Qu'est-ce qui ne se passe pas bien et qui fait qu'aujourd'hui ça a atteint la sexualité? Et on va travailler là-dessus. Donc par l'échange, on va finalement amener à pouvoir régler les différentes difficultés. Donc après, il y a des choses à mettre en place dans son quotidien pour justement permettre d'assainir la relation, de pouvoir l'apaiser, de sorte à pouvoir se sentir à nouveau à l'aise dans sa sexualité. Si on est plutôt sur un plan purement corporel, il va y avoir des petits exercices à faire à la maison d'accompagnement pour pouvoir justement entraîner le corps autrement. C'est-à-dire que la sexualité, finalement, on ne nous l'apprend pas. On ne nous en parle pas. C'est exactement comme le côté psychologique. On nous dit, bon ben, sois fort. Tiens bon, ça va aller. Mais on ne nous dit pas comment gérer nos émotions. On ne nous explique pas à quoi sert une émotion. On sait juste que, bon ben, il y a des émotions qu'on n'aime pas et qu'on ne veut pas trop vivre. Et que l'idée, c'est d'être heureux le plus longtemps possible et de pouvoir s'épanouir. Mais on ne nous explique pas comment mettre ces choses-là en place. Et c'est exactement pareil dans la sexualité où on ne nous explique pas, on nous explique comment se protéger, on nous explique comment éviter des maladies, on ne nous explique pas comment s'épanouir. Et l'épanouissement va aussi passer par le fait d'apprendre à découvrir son corps. Donc il y a toute une redécouverte du corps, redécouverte des sensations, de sorte à pouvoir ensuite dépasser les difficultés qui sont là.
Donc ça, c'est plutôt quand il y a vraiment quelque chose, des freins qui se situent vraiment au niveau physique.
Tout à fait. Hein?
Donc là, dans ce cas-là, on se réapproprie son corps.
Tout à fait.
Alors dans nos cultures, c'est vrai que la sexualité, on n'en parle pas beaucoup.
Tout à fait, c'est assez tabou encore. C'est de mieux en mieux.
Mais c'est quand même assez tabou. Donc peut-être qu'en effet, il y a des personnes qui pourraient être mieux épanouies,
ouais,
avec une sexualité mieux épanouie aussi.
Tout à fait. Tout à fait. Assez souvent, la sexualité, en tout cas aujourd'hui, a été cadrée pour servir au couple. La plupart du temps, l'idée, c'est est-ce que mon partenaire ou ma partenaire sexuelle est satisfaite ou satisfait? Est-ce que moi, je suis à peu près satisfait? C'est OK, du coup, on va recommencer à nouveau un prochain rapport. On n'est pas forcément dans l'optique de ben, comment je peux m'épanouir davantage, améliorer mes sensations, permettre à ce que toutes mes sensations se répartissent tout au long de mon corps et que ça ne reste pas uniquement focalisé à un niveau génital, par exemple.
C'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire que dans certaines relations, en réalité, une des personnes ne cherche qu'à satisfaire l'autre sans se satisfaire lui ou elle-même.
Assez souvent, dans les couples, c'est quelque chose qu'on retrouve. L'un des deux est plus centré sur le plaisir de l'autre que sur son plaisir, et donc celui, l'autre en face, du coup, va être davantage centré sur son propre plaisir, puisque toutes les attentions sont dirigées vers lui ou vers elle.
Et ça se rééquilibre.
Oui, tout à fait.
D'accord, donc ça peut faire partie aussi des choses qui sont importantes à rééquilibrer.
Exactement.
Alors, on a une question, suite à ce qu'on vient de dire sur le Facebook Fabien.Sublet, par rapport à cela, on a Marie-Vonne qui demande, est-ce que malgré tout, alors même si on n'a pas de problème, on peut quand même voir un sexothérapeute.
Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que l'idée de la sexothérapie, c'est l'épanouissement, l'amélioration de sa sexualité par rapport à là où on souhaite aller. Il n'y a pas de normes, il n'y a pas de pratiques qu'on doit faire ou pas. C'est vraiment une question d'alignement avec vous-même, de ce que vous souhaitez pour vous, de ce qui vous intéresse, pourquoi ça vous intéresse, et justement à partir de là, de mettre les choses en place pour pouvoir les ressentir, dans votre corps.
Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez novateur, parce que quelquefois, on va voir un thérapeute que quand ça va mal.
Exactement.
Mais on peut aller, on peut faire de la prévention sexothérapie. Alors,
exactement.
Comme on fait de la prévention dans d'autres domaines.
Exactement.
Alors
exactement.
Ça, c'est quand même quelque chose d'assez novateur, parce que c'est quelques des idées que l'on n'a pas forcément en tête d'aller voir un sexothérapeute quand tout va bien. C'est pour que ça aille encore mieux, alors.
Exactement. Et apprendre à ressentir autrement.
Ressentir autrement. Donc ouais. ça se fait au cours d'ateliers, ça se fait par des exercices à faire chez soi, mais chaque individu est différent. Donc comment vous arrivez à appréhender cela ?
C'est-à-dire que chaque exercice est adapté à ce qui a été dit auparavant. Il n'y a pas vraiment d'exercice type. Il va y avoir, par exemple, factuellement, s'il y a besoin de travailler sur la redécouverte du corps, ça va d'abord être d'apprendre à ressentir son corps et à ressentir ce qu'on appelle les zones de notre corps qui sont érotisées. Érotisées, ça veut dire qui nous amène des sensations d'excitation corporelle. Donc, je peux tout à fait proposer de ressentir le corps, je sais pas moi, par exemple, à travers une douche, d'apprendre à ressentir son corps, à toucher les différentes parties de son corps pendant qu'on se lave, pour d'abord commencer à appréhender son corps et à reconnecter avec son corps, tout comme, par exemple, avec d'autres personnes qui vont déjà être habituées à toucher leur corps ou qui vont déjà être habituées à ressentir leur corps, par exemple, parce qu'elles ont une activité sportive régulière, ça va plus être le fait d'apprendre à redécouvrir son corps, par exemple avec une plume, et d'apprendre à redécouvrir et à ressentir, ok, ben là, je ressens des frissons, ah ben là, c'est pas très agréable, ah ben là, ça me chatouille, ah ben là, et de pouvoir, et toutes ces connaissances que vous allez du coup accumuler, ça va vous permettre d'orienter votre partenaire pendant la sexualité, et donc vous également de ressentir davantage de plaisir.
Alors ça c'est important, c'est-à-dire orienter le partenaire ou la partenaire dans ce dont à quoi on aspire.
Tout à fait. Et où la communication autour de la sexualité est très importante. Alors lorsque je dis communication, ça n'est pas forcément avec des mots. Dans certaines relations, c'est pas forcément facile de pouvoir poser les mots en disant bah, « je préfère que tu fasses ça plutôt que ça ». Néanmoins, ça peut être tout simplement en se positionnant de manière plus proactive et en amenant à ce que du coup l'autre comprenne que c'est quelque chose qu'on préfère.
Alors ça c'est important cette notion-là parce que dans certains couples, eh bien en effet, la communication, qu'elle soit verbale ou non verbale, n'est pas suffisamment développée lors de l'acte sexuel.
Tout à fait. Il y a souvent un... Alors, il y a plusieurs facteurs. Il y a le côté tabou dont on parlait tout à l'heure, mais il peut y avoir également la peur du jugement de l'autre, qu'il se dise ou qu'elle se dise ah mais non, je devrais pas penser comme ça ou je devrais pas faire comme ça ou c'est pas bien. Et puis il peut y avoir également la peur de blesser l'autre. Où l'intention n'est pas de lui dire ah ben non mais là t'es nulle, mais plus bah ça me correspond pas, mais de ne pas savoir forcément poser les mots pour pouvoir transmettre ce message.
Alors ça rebondit sur Jean qui dit, en nous écoutant, bien oui, donc il faut faire une petite discussion tranquillement. Ça se fait quand, ça, lors des préliminaires, dit-il.
Alors, disons que ça n'est pas vraiment possible de normer en se disant, voilà, il faut commencer au départ par agir de telle ou telle manière. Ça va vraiment être une question de ressenti. Finalement vis-à-vis de sa pratique. Des fois, la manière dont ça se passe nous convient tout à fait, puis on n'a rien à redire et on souhaitera faire évoluer les choses plus tard dans le temps. Comme d'autres fois où le premier acte n'était pas forcément top, donc on n'a pas forcément envie d'y retourner, mais pourtant on aime bien la personne, et où là ça va être important de pouvoir commencer à communiquer. La communication peut avoir lieu en dehors du rapport sexuel. Ça peut être avant, ça peut être après. J'aurais plutôt tendance à privilégier le après que le avant, parce que le avant va amener une certaine pression autour de l'acte sexuel en disant « Ah bon, bah, il ou elle m'a dit qu'il fallait que je fasse comme ça, donc là, il faut absolument que je fasse comme ça. » Donc ça peut être autour de l'acte, comme ça peut être pendant l'acte, en communiquant de manière assez simple. Ah bah tiens, tu veux pas qu'on essaye ça, ou ah bah attends, bouge pas, ou enfin voilà, quelque chose d'assez spontané, pas forcément si c'est pendant l'acte. L'idée n'est pas de discuter pendant 5 minutes. Ça va vraiment être quelques mots posés pour pouvoir accompagner le nouveau mouvement ou la nouvelle posture ou la nouvelle pratique qui sera insérée.
Alors là, sur ces points-là, en effet, quelquefois, dans notre subconscient, il y a tout un système éducatif qui fait que peut-être c'est très compliqué de passer cette façon de voir les choses pour arriver à discuter, ne serait-ce que pas discuter, mais de mettre en place ce dont on a envie.
Tout à fait, tout à fait. Et où, effectivement, on est très souvent impacté par nos croyances, nos valeurs, nos normes, toutes les limitations qu'on va mettre en place. Et où justement, l'idée est de pouvoir apprendre à dépasser ses peurs pour aller vers plus d'épanouissement. Pas dépasser ses peurs sur l'angle « allez force, allez tiens bon », mais vraiment plus sur l'angle de « mais en fait j'ai besoin de ça, tout simplement ». Et je ne me vois pas continuer à vivre de cette manière-là sans être bien alors que je pourrais. Et où il y a quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus naturel qui se met en place. Mais quand j'ai envie, je sais pas moi, de m'arrêter pour manger telle chose, ben oui, je le dis et je me pose pas de questions. J'ai pas peur du jugement. On en revient à cette idée de peur du jugement. J'ai pas peur du jugement et je fais les choses spontanément parce que j'ai confiance sur le fait que j'ai besoin de ça et que l'autre peut l'entendre. Donc ça vient également re-questionner derrière le couple sur à quel point je peux communiquer mes besoins et à quel point je peux être entendue dans mes besoins.
Et ça, quelquefois, ça peut complètement changer l'avenir d'un couple. Hein,
tout à fait.
Cette communication. Il y a tellement de couples, justement, la communication verbale ou non verbale est complètement absente ou dépassée. Quelquefois, juste le fait d'une consultation chez un sexologue ou un sexothérapeute peut changer complètement et revirer complètement l'avenir d'un couple.
Tout à fait. Et je rebondis sur ce que vous dites avec une consultation, parce qu'effectivement, il n'y a pas forcément besoin de 10 ans de thérapie.
Quelquefois, une fois suffit. Hein.
Exactement, exactement. Des fois, il y a juste certains recalibrages à faire, à pouvoir un petit peu entendre certaines choses, à pouvoir poser certains mots, pour se rendre compte que ben on y était presque, mais on était à deux doigts et il nous fallait juste ce petit élément pour pouvoir rebondir.
Alors justement, dans ces différents freins. À l'épanouissement d'un couple, on en trouve certains, comme la jalousie.
Tout à fait.
Alors cette jalousie, quelquefois, elle empoisonne la vie des couples.
Tout à fait.
Souvent inutilement. Donc comment on réagit? Comment vous expliquez? Comment vous mettez en place des moyens d'intégrer cette jalousie dans la vie du couple?
Alors la jalousie est assez souvent liée à deux choses. Il y a le côté personnel et le côté relationnel. Du côté personnel, il peut être question de confiance en soi, d'expériences passées qui ont été difficiles ou douloureuses. Il peut y avoir également le côté possessivité, besoin de sentir que l'autre nous appartient, et où la jalousie et la possessivité sont deux choses différentes. La jalousie, c'est de se sentir en rivalité avec l'autre, alors que la possessivité, c'est le besoin que l'autre nous appartienne. Et ou dans pas mal de relations, pour pouvoir se permettre d'être soi et pour pouvoir se permettre de s'épanouir et de parler de soi et de s'ouvrir finalement et de se sentir en confiance avec l'autre. Assez souvent, pour s'assurer une marge de sécurité, on va être davantage possessif en se disant « bon, j'ai dit tout ça, mais au moins je suis sûre que l'autre partira pas parce que l'autre est vraiment à moi ». Et où effectivement il peut y avoir tout ce rapport-là, donc au niveau personnel, d'avoir besoin que l'autre vienne nous sécuriser dans nos craintes. Donc la jalousie peut être liée à ce côté-là, finalement qu'on peut un peu englober sur l'angle de la confiance en soi. De l'autre côté, en ce qui concerne le côté relationnel, il est question aussi de comment l'autre fonctionne. Donc comment notre partenaire fonctionne. Est-ce que l'autre a un besoin de séduction assez présent? Est-ce que l'autre a finalement des envies ou une façon de voir la vie qui est différente de la vôtre? Par exemple, si l'un des deux aurait plutôt tendance à s'orienter vers un couple libre alors que l'autre aurait plutôt tendance à être vers de l'exclusivité, ça va être beaucoup plus compliqué à pouvoir combiner justement les deux. Il va y avoir également, finalement, dans la jalousie, tout ce rapport à certaines personnes peuvent se mettre à tenter de séduire à l'extérieur parce qu'elles se sentent étouffées dans leur couple. Et pour avoir justement une vague de liberté, se dire « ah ben voilà, mais je peux me permettre, je peux avoir des contacts avec d'autres hommes, d'autres femmes, et que ça ne porte pas à confusion. » Et donc vont aller davantage dans la recherche à l'extérieur parce qu'ils se sentent étouffés dans leur couple. Donc il peut y avoir plusieurs raisons qui amènent à ce que cette jalousie se construise d'un point de vue du coup personnel et d'un point de vue relationnel.
Donc cette jalousie peut être un moyen de manifester en réalité un mal-être dans le couple quand même.
Tout à fait.
C'est là que le sexothérapeute, le sexologue peut intervenir pour mettre en exergue le problème. Parce que ce que vous allez chercher, c'est le problème qui cause chez la personne ce besoin d'aller voir un petit peu ailleurs, de manifester son intérêt pour d'autres personnes. Et une fois que ça s'est levé, quelquefois tout rentre dans l'ordre.
Exactement.
Alors ça c'est la jalousie, puis l'infidélité alors, parce qu'il y a la jalousie, ça c'est une chose, mais après il y a l'infidélité, c'est un passage à l'acte.
Tout à fait, et dans ce passage à l'acte, alors l'infidélité déjà il est important de la définir dans un couple, ça fait partie des choses dont on peut parler assez rapidement, c'est de savoir à quel moment j'estime que tu me trompes. À savoir, pour certaines personnes, discuter par message avec quelqu'un du sexe opposé peut être considéré comme de la tromperie. Pour d'autres personnes, ça va être le fait d'avoir un acte sexuel. Pour d'autres personnes, ça va être le fait d'avoir des sentiments. Donc, tout ça, c'est important de le calibrer avec l'autre. Tout en sachant que, nécessairement, les normes qu'on va imposer à l'autre, par exemple, « non, je veux pas que tu parles avec... j'en sais rien, moi, ton ex. » On va pas forcément s'appliquer les mêmes en disant « oui, mais moi, je parle à mon ex, mais je sais ce que je fais parce que j'ai le contrôle. » Et où toutes ces choses-là vont être importantes à cadrer et à pouvoir justement rétablir une confiance, un lien sain au sein du couple.
Ça, c'est important, cette notion-là de dépister suffisamment tôt. Ça, c'est pareil. C'est un peu comme les pathologies. On dit on va dépister suffisamment tôt parce qu'on traite plus facilement. C'est le même cas. C'est un peu le même cas.
Exactement.
En sexothérapie. Faut dépister tôt ce type de problématique pour arriver à les traiter relativement facilement et qu'elles permettent un épanouissement du couple.
Exactement. C'est-à-dire que dans un couple, on construit un relationnel. Alors, on parle du couple, on pourrait tout à fait parler de l'amitié, on pourrait tout à fait parler de la famille, on pourrait tout à fait parler d'autres types de relations. Mais finalement, on arrive en ayant des normes différentes et des manières de voir la vie qui sont très différentes. Et assez souvent, quand on accroche bien avec quelqu'un, on se dit « bah c'est qu'on pense pareil, en fait, on a les mêmes valeurs », alors que parfois pas du tout.
Oui, parce que de temps en temps, il y a des couples épanouis qui n'ont pas les mêmes valeurs.
Exactement. Ils vont se nourrir chacun de leurs différences et où ça va leur permettre de grandir en se disant, alors si on prend sur des comportements très factuels, quelqu'un de très introverti avec quelqu'un de très extraverti peuvent être tout à fait très compatibles parce que la personne du coup extravertie va permettre à l'introverti de s'ouvrir tranquillement mais parce que ça l'intéresse. Et pareil, la personne extravertie va permettre... en tout cas, à cette personne introvertie, de pouvoir prendre confiance, finalement, lorsqu'il va être en milieu public, on va dire ça comme ça. Et de l'autre côté, vous allez avoir, du coup, la personne introvertie qui va permettre à la personne extravertie de pouvoir connaître l'intimité et le fait de pouvoir partager des choses avec quelqu'un de manière privilégiée, en fait.
Alors ça, de temps en temps, il y a peut-être besoin de faire un point là-dessus, justement, dans certains couples qui sont de cultures différentes, qui n'ont pas les mêmes aspirations, etc. Ça peut présenter quand même des difficultés. Mais ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ce n'est pas parce que ce sont des difficultés qu'elles sont insurmontables.
Exactement. Tout dépend de l'intérêt qu'on porte à la différence de l'autre. Si la différence de l'autre ne nous intéresse pas, ne nous parle pas, on va rentrer dans un conflit de pouvoir dans le couple. Donc où chacun va dire, non mais tu devrais pas être comme ci, mais non mais c'est toi qui devrais pas être comme ça, c'est toi qui est pas assez ouvert, c'est toi qui es trop renfermé, etc. Donc s'il n'y a pas d'intérêt pour le fonctionnement de l'autre, là ça risque de ne pas fonctionner. Néanmoins s'il y a un intérêt, une curiosité, se dire bon c'est pas ma manière de fonctionner mais après tout pourquoi pas, ça peut être intéressant. C'est de l'ouverture et puis on grandit du coup dans le couple, on grandit avec l'autre et on grandit personnellement.
Ça c'est important, cette notion de grandir côte à côte et ensemble.
Tout à fait.
Et de pouvoir ne pas se heurter dans le couple de temps en temps à des petites choses qui sont quelquefois, qui peuvent paraître comme des énormes obstacles, alors que quelquefois, rien qu'avec la visite, en une visite chez un thérapeute, on peut arriver à lever cet obstacle et d'énormes obstacles, ils passent à tout petit, rien du tout. C'est un peu
tout
ça.
Tout à fait. Exactement. Et assez souvent, j'utilise souvent cette image. On nous parle de deux personnes qui marchent ensemble sur le même chemin en se tenant la main. Avoir le même chemin que quelqu'un, c'est très compliqué parce qu'on ne peut pas être pareil que l'autre. Et l'idée d'un couple qui tient, c'est le fait que chacun ait son propre chemin, mais qu'on soit en capacité de se tenir la main, même si on n'est pas pareil. Vous avez nécessairement, en tout cas, des axes de carrière différents, vous avez nécessairement des envies, des passions, des hobbies, des lubies différentes également. Et c'est de pouvoir se dire, je peux réaliser ce qui me parle, ce qui est important pour moi, et je peux quand même être à tes côtés.
Alors on a un message de Julie qui nous dit que parfois, de temps en temps, dans les couples modernes, on a peut-être tendance à zapper un peu vite, c'est-à-dire sans peut-être prendre le temps de cette connaissance de la connaissance de l'autre et peut-être d'appréhender ces différences. Vous en pensez quoi ?
Alors je suis tout à fait d'accord. Tout dépend de l'objectif pour lequel finalement on va se mettre en couple. Il y a des personnes qui vont se mettre en couple parce qu'il ne faut pas être seul. Parce que peur de la solitude, parce que qu'est-ce que les autres vont dire ? Oui, mais ça fait déjà un an, deux ans que je suis tout seul ou que je suis toute seule et on n'arrête pas de me dire c'est pour bientôt, mais c'est pas possible, tu dois pas être supportable. Et où effectivement, si on part sur des raisons qui sont plutôt de l'ordre de la norme, du besoin de cadre ou du besoin d'être rassuré ou ce genre de choses, on se dit la personne accepte d'être avec moi, donc je reste. Et où on prend le minimum de valorisation en se disant on accepte de me garder. Alors que lorsqu'on est plutôt dans une optique de je cherche quelqu'un avec qui je me connecte, quelqu'un avec qui je peux tisser un lien, quelqu'un avec qui je peux construire, quelqu'un avec qui quelqu'un qui est là pour moi, quelqu'un sur qui je peux compter, quelqu'un avec qui je prends plaisir à être là pour lui ou pour elle, quelqu'un qui me permet de m'épanouir, qui me permet de grandir, quelqu'un qui m'accompagne, quelqu'un qui répond à mes besoins, où là effectivement on aura plus de facilité à pouvoir poser ensemble, est-ce qu'on a les mêmes valeurs, est-ce qu'on a les mêmes besoins, est-ce qu'on a les mêmes envies, et donc d'éviter de tomber dans le piège de la dépendance affective, il faut surtout pas que je sois seule, donc du coup je te garde même si ça me fait mal, parce qu'il faut pas que je sois seule.
Ça, c'est important, cette notion de laisser le temps au temps dans la découverte du couple.
Tout à fait.
Et ça, quelquefois, en effet, aujourd'hui, ce temps, on ne l'a pas dans sa vie de tous les jours, on ne l'a pas non plus pour former un couple.
Exactement. Et où là vient justement tous les moyens de télécommunication qui nous permettent justement de pouvoir petit à petit apprendre à se connaître autrement avec une communication plus régulière.
C'est important cette notion-là. Alors après, dans le couple, quelquefois, il y a des liens toxiques. Par contre, ces liens toxiques, comment on les lève et qu'est-ce que c'est que ces liens toxiques ?
Alors, dans les liens toxiques, c'est très à la mode en ce moment tout ce qui est perversion narcissique. On en entend beaucoup parler. En réalité, c'est moins répandu que la manière dont on en parle à l'heure actuelle. Néanmoins, le côté perversion peut être quand même assez répandu. Le côté perversion, dans un couple, on va l'identifier parce que il va y avoir ce rapport de pouvoir. Et les liens toxiques sont fondés autour des rapports de pouvoir. Donc on en revient, rapport de pouvoir égale rapport de dépendance. Dans ce rapport de pouvoir, il y a du chantage affectif, ou en tout cas au moins du chantage. Il y a constamment la peur de ne pas être assez bien, la peur que l'autre s'en aille, la peur que de faire la mauvaise chose, de dire la mauvaise chose. Et il va y avoir tout ce contexte de rétention, c'est-à-dire que vous allez sentir que là je devrais pas, ou là je peux pas, ou qui va freiner toute votre spontanéité et qui va du coup freiner ce pourquoi on devrait vous aimer dans un couple.
Ça c'est important, cette notion de lien, et comment une personne peut être amenée à identifier ces liens toxiques ? Qu'est-ce qui pourrait les aider, par exemple, nos auditrices, nos auditeurs ? Comment ils peuvent être amenés à identifier ces liens ? Parce que quelquefois, ces liens sont créés, sont ancrés, les personnes ont du mal à les appréhender, et donc, en réalité, ça, ça va vers des couples non épanouis. Alors comment on peut les aider à identifier ces liens ?
Alors, je dirais que l'indicateur principal pour identifier un lien toxique, c'est le sentiment de mal-être. C'est le fait de se sentir constamment sur le fil, de sentir que on se pose toujours la question de est-ce que je devrais ou est-ce que je devrais pas, de sentir que on fait des choses tout en étant pas aligné avec soi-même, tout en étant dans l'hésitation, tout en se disant bon, ça me convient pas trop, mais bon, si ça peut lui faire plaisir, alors une fois, deux fois, trois fois par semaine, d'accord, une fois, deux fois, trois fois par jour, c'est déjà trop.
Cette notion-là est importante. À partir de quand je me sens pas bien dans le fait de me poser des questions sur la relation.
Exactement. Ou en tout cas sur ce que j'ai le droit de faire ou pas le droit de faire.
Le droit de faire ou de pas droit de faire, le droit vraiment verbalisé ou non verbalisé, en faisant sentir que non, c'est ça, tu n'as pas le droit de le faire. Et là, il y a ce sentiment de lien qui commence à devenir un lien toxique pour la personne.
Exactement.
Et ça, c'est quelque chose d'important à retenir et surtout quelque chose d'important à dépister assez tôt. Pareil, pour le dépister tôt, ben, c'est prendre ce qu'il faut comme résolution pour eh bien, être mieux épanoui. Donc là encore, peut-être voir un sexothérapeute rapidement pour pouvoir quelquefois en une séance lever, comme vous nous l'avez dit, toutes ces petites choses qui empoisonnent la vie de couple.
Exactement.
Non, ce qui empoisonne aussi la vie de couple de temps en temps, ce sont les enfants.
Et tout
ça,
à fait.
Alors comment ça se passe là aussi, parce que quelquefois les enfants sont la raison de chamaillerie dans le couple ou de ressentis négatifs. Alors comment ça se passe là encore?
Alors exactement comme pour finalement la sexualité où on a de l'individuel et du relationnel, là c'est exactement pareil. Avec les enfants, il va y avoir une part individuelle et une part relationnelle avec eux. Dans la part individuelle, finalement il y a tout le rapport à comment je me positionne en tant que parent. Certaines personnes, lorsqu'elles deviennent parents, ne sont plus dans leur couple. Ne sont plus dans leur sexualité, ne sont plus et sont uniquement parents. On l'observe assez souvent suite à une première grossesse où ensuite il n'y a plus du tout de sexualité. Alors au départ c'est parce qu'on dort pas beaucoup, c'est parce qu'on est très vigilant à l'enfant, c'est parce qu'on est fatigué. Et puis à un moment donné ça s'inscrit dans l'habitude de oui, enfin bon, on est devenu deux collaborateurs pour gérer des enfants et plus on est un couple et où l'épanouissement va beaucoup passer à travers le fait de pouvoir aborder la vie en étant pleinement soi, je dirais, sur différentes facettes, en étant autant un homme ou une femme que un parent, que un frère ou une sœur, que un ami, que tel ou tel type de professionnel, que telle ou telle personne qui aime une activité en soi, et c'est de pouvoir vraiment s'épanouir sur différents plans. Et où beaucoup de personnes, en devenant parents, ne deviennent plus que parents et oublient leurs activités personnelles, ne font plus leurs hobbies, ne voient plus leurs amis, ne voient plus leur famille, parce que c'est vrai que c'est un changement, donc il y a un débordement au départ, c'est normal, mais où les personnes peuvent oublier de réintégrer leur vie personnelle et de combiner le fait de je suis aussi parent, mais je suis pas que parent. Donc il y a ce côté personnel qui peut amener des problèmes dans le couple. Parce que, un resto, plus tard, parce que là, tu comprends, il y a les enfants, et puis qui va garder les enfants, et puis moi, je leur fais pas confiance. Donc du coup, non, c'est nous qui les gardons, donc qui peut amener certaines difficultés dans le couple, parce qu'il n'y a plus de temps en duo. Et où c'est important, lorsqu'on a des enfants, de pouvoir garder des temps en duo, pour continuer à partager sur cette sphère-là. Par ailleurs, vis-à-vis des enfants, il y a le relationnel de « est-ce que je suis un bon parent ?» Et dans cette manière de percevoir les choses, va se questionner les valeurs. Et donc les valeurs également du partenaire. Moi à cet âge-là, j'estime pas qu'on devrait laisser les enfants tout seuls à la maison. Ah ben non, moi je trouve qu'on devrait les laisser tout seuls. Et où du coup il peut y avoir certains conflits dans le couple par rapport à ça, par rapport à la manière de souhaiter prodiguer une éducation finalement. et où là, il peut y avoir des difficultés dans le relationnel vis-à-vis des enfants, et où on en revient un peu comme vis-à-vis du couple, quand on construit un couple, un peu comme vis-à-vis de la sexualité, quand on construit notre sexualité, qui évolue tout au long de la vie, la sexualité, ainsi que le couple. Finalement, c'est de pouvoir amener à ce que, vis-à-vis des enfants, on puisse également faire ce petit topo ensemble de bah oui, mais toi, vis-à-vis des enfants, comment tu vois les choses? Est-ce que tu serais plutôt du genre à jamais dire non ou au contraire à dire tout le temps non? Est-ce que tu serais plutôt du genre à faire facilement confiance ou pas du tout? Est-ce que si bébé pleure, est-ce que toi tu serais plutôt à y aller tout de suite ou pas du tout? Enfin voilà, du coup ça va être aussi des choses à cadrer ensemble et puis ensuite à collaborer pour trouver un équilibre, parce que des fois on n'est pas d'accord, mais on peut trouver une troisième solution qui correspond aux deux.
Et puis les enfants, ben après, quand ils deviennent un peu plus grands, c'est les crises d'adolescence qui peuvent aussi là influer sur le couple lui-même. Pas que sur l'enfant, hein.
Tout à fait, tout à fait. Et où là, c'est très important d'être solide ensemble dans son couple. Un psychologue américain parlait du fait qu'un enfant, c'est un petit dictateur avec deux esclaves que sont les parents. Et où effectivement, dans l'idée, si on n'est pas unis face aux difficultés que présente notre enfant, bah, chacun va partir dans sa résolution du problème, donc avec ses propres valeurs, qui peuvent des fois contredire ce que l'autre va mettre en place. Donc des fois, ça va être le résultat va être stérile, alors que les deux solutions étaient très bien. Et où effectivement, là, être unis, pouvoir s'accompagner, pouvoir communiquer, ou à nouveau la communication, c'est pas forcément avec des mots. L'idée est de pouvoir être entendu par l'autre dans ce qu'on communique. Parce que des fois, on va poser les mots, on va pas être entendu, et des fois, certains actes vont nous permettre d'être entendus. Mais où être unis va être très important pour pouvoir faire face à ce qu'on appelle la crise d'adolescence.
Cette crise d'adolescence, oui, c'est quand même un moment compliqué à passer pour certains couples.
Tout à fait.
Donc être unis, et là, peut-être aussi faire de la prévention, en voyant un sexothérapeute, peut-être une séance, pour pouvoir bien comprendre comment fonctionne un adolescent.
Exactement.
Comment cet adolescent peut avoir une influence sur la vie de couple, et puis comment faire en tant que couple d'être une unité, à deux, une unité, c'est-à-dire discuter d'une seule voix vis-à-vis de l'enfant pour éviter ce qui peut se passer, c'est-à-dire un éclatement du couple suite à une crise d'adolescence un peu compliquée.
Exactement. Exactement. Et par ailleurs, l'adolescent, qu'est-ce que c'est que la crise d'adolescence? C'est le moment où cet enfant qui grandit, qui lâche un petit peu la dépendance vis-à-vis des parents, commence à investir ses amitiés. Et dans cet investissement de ses amitiés et de son environnement, donc de la vie, de l'école, de comment ça fonctionne à l'extérieur de la maison, va se rendre compte que c'est pas du tout ce qu'il avait imaginé. Et c'est pas du tout ce qu'on lui a raconté, c'est pas du tout ce que les films lui ont raconté non plus. Et donc, il peut y avoir une forme de déception. De déception qui va du coup créer une réaction chez cet adolescent qui va vouloir avancer face à ça et qui va émettre assez souvent soit beaucoup de colère, soit beaucoup de tristesse, mais en tout cas, il va y avoir un besoin d'aller réagir face à ce qui se passe à l'extérieur. D'où le fait que ça va être une période où il va y avoir un peu plus d'insolence, où l'enfant va davantage répondre à ses parents avec de la provocation. Ça va être également une période pendant laquelle, du coup, cet adolescent qui se cherche et qui apprend à pouvoir expérimenter à l'extérieur de la maison va également prendre parti sur des questionnements de couple. Et donc va, par exemple, dire « Bah oui, mais je comprends pas pourquoi papa il fait ça » ou « Je comprends pas pourquoi maman elle fait ça », ce qui amène des problèmes dans le couple si vous n'êtes pas unis au départ.
Morgane Siupa, merci d'avoir été mon invitée aujourd'hui dans cette émission Faut d'autres savez. On a vu toutes les facettes de cette sexothérapie avec tous les moments dans la vie du couple où consulter donc un psychologue, sexothérapeute, sexologue peut être intéressant. Merci beaucoup. Quant à moi, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission de Faut d'autres savez. En attendant samedi, portez-vous bien.